semaine d'actualité, Chantal Leroux.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour revivre ensemble les moments forts des 7 jours écoulés. Nous irons de Jérusalem à Washington en passant par Dakar. Et pour commenter cette actualité, notre invité est un historien, journaliste, spécialiste du monde du renseignement. Bonjour Rémi Coffer.
Bonjour.
Vous publiez « Les femmes de l'ombre, l'histoire occultée des espionnes » aux éditions Perrin. C'est à la fois une galerie de portraits et une odyssée qui nous fait voyager à travers le monde, du XVIIe siècle à nos jours, de l'Angleterre de Cromwell à l'Amérique de Trump, qui a placé une femme à la tête de la CIA. Pourquoi avez-vous eu envie de mettre en lumière ces femmes de l'ombre ? Vous pensez qu'elles n'ont pas la place qu'elles méritent dans l'histoire du renseignement, voire dans l'histoire tout court ?
Bon, ça c'est sûr. Alors pourquoi j'ai eu cette idée ? Bon, il se trouve que ça fait 35 ans, comme vous l'avez noté, que je travaille sur les questions de services secrets, de renseignement, et que je me suis aperçu, chemin faisant, que précisément cet angle, l'angle féminin de l'espionnage n'était pas abordé. Et je ne dis pas que personne n'en parle. Il est très peu abordé, en particulier du point de vue historique, parce que... D'une part, l'histoire du renseignement est écrite par des hommes, j'en suis un également, et parce que d'autre part, à part quelques exceptions, les femmes ne s'intéressent pas beaucoup à ces questions. Donc les deux facteurs ont fait que cette histoire des femmes dans les services secrets est rarement racontée, et en tout cas pas racontée comme je l'ai fait, c'est-à-dire d'un bout à l'autre.
Alors, dans votre livre, vous ne faites pas d'angélisme. Certaines femmes espionnes ont joué un rôle positif, d'autres un rôle néfaste. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir.
Comme dans la vie, bien sûr. Il y en a qui sont héroïques, il y a des résistantes qui sont absolument héroïques, et puis vous avez des femmes épouvantables qui font des choses affreuses. Je pense à Caridad Mercader del Rio, qui transforme son propre fils en assassin pour qu'il aille tuer Trotsky à Mexico, par exemple. Bon, c'est pas une mère qu'on aimerait avoir, quoi.
Alors, quand on parle d'espionne, on pense par exemple à Mata Hari. Son nom est devenu presque un substantif. On joue les Mata Hari. Pourquoi ce mythe Mata Hari, alors qu'on découvre dans votre livre qu'en fait, elle a été une très mauvaise espionne ?
Alors, c'est une espionne nulle. Le mythe, vous le comprenez, c'est parce que ça fait frétiller les messieurs. Mata Hari, elle est danseuse nue, elle se déshabillait, elle avait des tas d'amants, etc.
Demi-mondaine.
Voilà. Mais c'est pas du tout parce qu'elle était une grande espionne. Tout le monde savait que c'était une espionne, donc son efficacité était quasi nulle. On s'en servait éventuellement pour essayer de repasser des tuyaux crevés aux autres. Mais elle a été fusillée pour une autre raison. Pour le moral des troupes, parce qu'en 1917, il y a des mouvements de protestation parce que la guerre dure trop longtemps, les poilus en ont assez, et les poilus qui les tracassent, c'est ce qui se passe à l'arrière, il y a des bruits qui courent sur la morale des femmes à l'arrière. Donc on leur livre en pâture, si vous voulez, une femme entre guillemets de mauvaise vie, en plus elle est hollandaise, donc c'est pas une nationale, et on fait même filtrer la photo dans l'illustration de Mata Hari au milieu du peloton d'exécution avant d'être fusillée.
Autre femme que vous faites tomber de son piédestal, Coco Chanel.
Coco Chanel, on ne peut pas dire que c'était la chef de la résistance, étant donné qu'elle était la maîtresse d'un officier de l'Abwehr, donc le renseignement militaire allemand, et qu'elle s'est livrée parce qu'elle avait peur qu'il soit muté par sa centrale ailleurs, qu'en France, eh bien, elle s'est compromis effectivement avec l'occupant, oui bien sûr.
Comment ça se fait qu'on l'ait un peu oublié, ça, cette page sombre de la vie de Coco Chanel ?
Parce qu'on aime bien le bling-bling en France. Donc Coco Chanel, elle était très bling-bling. Sachez aussi que Winston Churchill, par exemple, qui aurait eu de fortes raisons de se plaindre de ses activités pendant la guerre, l'a protégée parce que c'était une couturière connue.
Alors en revanche, on vous sent presque admiratif, ou alors je me trompe, devant le courage et la détermination d'Ethel et Julius Rosenberg, condamnés à la chaise électrique en 1953 par la justice américaine. Vous écrivez « Si les Rosenberg méritaient un titre, c'est celui de héros de l'Union soviétique, qui ne leur fut jamais décerné pour des raisons d'opportunité. L'URSS a disparu et la Russie actuelle a d'autres chats à fouetter que la glorification des agents secrets du défunt régime soviétique. »
Je dirais pas que j'ai de l'admiration. Les Rosenberg trahissaient quand même les États-Unis pour une cause idéologique qui était la cause soviétique. Donc on ne va pas leur voter des félicitations ni leur donner une médaille.
Mais ils ont eu beaucoup de courage.
Et seule Rosenberg était une femme très courageuse, mais c'était aussi une fanatique. C'est-à-dire que, en gros, ce que John Edgar Hoover, le patron du FBI, et le juge Kaufman, qui était juif, ce qui limite quand même la grande campagne sur les États-Unis deviennent antisémites, etc. C'est complètement bidon. Ce qu'ils attendent des Rosenberg, c'est des aveux. Après, ils les auraient mis quelques années en prison, mais ils attendent des aveux. Et les Rosenberg, fanatiquement dévoués à leur cause, refusent les aveux. John Edgar Hoover, comme vous le savez, était très attaché à sa mère, et il n'a jamais pensé que Essel Rosenberg irait à la mort plutôt que de parler. Or, elle laissait deux orphelins. Donc voilà, c'est le drame qui a ému beaucoup de gens, mais beaucoup de gens qui pensaient que les Rosenberg n'étaient pas coupables. Alors, les Rosenberg l'étaient, bel et bien, d'espionnage contre les États-Unis.
À vous raconter que ce sont les Anglais qui, les premiers, ont cru au potentiel féminin en matière de renseignement et inventé le terme de « she intelligence ».
Oui, ils ont inventé effectivement, donc pendant leur guerre civile, donc au milieu du XVIIe siècle, entre les partisans de Cromwell, les puritains et les royalistes, eh bien il y a un certain nombre de femmes dans les deux camps qui jouent un rôle, et effectivement il y a ce terme « she intelligencers » ou « female intelligencers » qui apparaît à l'époque et qui après a sombré. Là je l'ai un peu réexhumé, mais bon, alors il me paraît pourtant un terme très clair qui dit le renseignement au féminin, le renseignement fait par des femmes.
Alors quels étaient les atouts spécifiques des femmes pour devenir espionnes selon les Anglais?
Alors selon les Anglais, ça dépendait de quel camp. Parce que les femmes qui travaillaient pour le corps royaliste, c'était des aristocrates. Donc elles avaient une facilité à se déployer dans la société. Et puis on les sous-estimait. Bon, le problème des hommes en matière de renseignement, c'est que pendant très longtemps, ils ont cru que les femmes étaient des nunuches, donc elles ne pouvaient pas être des bonnes agentes, etc. C'est ce que je demande dans ce livre, Les femmes de l'ombre, parce qu'il y a beaucoup d'agentes qui ont été très efficaces. Alors il y avait cet aspect. Et il y avait des femmes qui travaillaient pour les communes de milieux plus populaires. Elles travaillaient souvent pour de l'argent parce qu'elles avaient besoin de moyens pour vivre. Alors on les rémunérait pour que ça ne fasse pas un scandale. Eh bien, on les rémunérait officiellement comme nurse payée par le trésorier d'un hôpital. Parce qu'on se disait, si on met ça sur les cahiers agente ou espionne, on va sentir un truc de faveur sexuelle. Et alors les puritains auraient crié. Donc on les baptisait nurse, infirmière, mais elle ne l'était pas du tout, évidemment.
Une semaine d'actualité. Rémi Koffer, nous reviendrons tout à l'heure à votre livre « Les femmes de l'ombre, l'histoire occultée des espionnes ». Mais je vous propose tout de suite de revenir sur les moments forts de l'actualité internationale de la semaine. On commence par l'Iran, où l'annonce d'une hausse du prix de l'essence il y a une semaine a déclenché des manifestations de colère dans une centaine de villes du pays. Selon Amnesty International, la répression qui s'est abattue sur les contestataires aurait fait plus d'une centaine de morts. Le régime, lui, parle de 4 policiers et un civil tué. Difficile de savoir ce qui se passe exactement, puisque les autorités ont presque totalement bloqué Internet. Mercredi, le président iranien Hassan Rouhani a dénoncé un complot de l'étranger, Nicolas Falaise.
Hassan Rouhani affirme que ce sont des ennemis de l'Iran qui sont à l'origine des manifestations de ces derniers jours. Le président iranien désigne les États-Unis, Israël et ce qu'il appelle les forces réactionnaires de la région, comprendre l'Arabie Saoudite et ses alliés. Pour Hassan Rouhani, les manifestants étaient peu nombreux et le président assure que le peuple iranien est sorti victorieux. Des propos qui illustrent les images diffusées par la télévision publique montrant des rassemblements de soutien aux dirigeants de Téhéran alors qu'Internet est presque totalement coupé en Iran. La brusque explosion de colère en Iran survient alors que la population subit de plein fouet des sanctions américaines et dans une région où les foyers de tension et d'agitation ne manquent pas, la situation en Iran préoccupe les autorités françaises, notamment, qui expriment leur vive inquiétude suite aux informations faisant état de la mort de nombreux manifestants.
Les États-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes des territoires palestiniens comme contraires au droit international. Cette déclaration choc lundi du secrétaire d'État américain Mike Pompeo a aussitôt été condamnée par l'Union européenne et par les Palestiniens. À Ramallah pour RFI, Marine Vlaovic. Cette déclaration de Mike Pompeo est nulle et non avenue, selon l'autorité palestinienne, qui dénonce des propos en totale contradiction avec le droit international et des résolutions de l'ONU condamnant les colonies israéliennes. Une fois de plus, l'administration américaine menace le système actuel en cherchant à remplacer le droit international par la loi de la jungle, déclare de son côté Saeb Erekat de l'Organisation de libération de la Palestine. D'une seule voix, les dirigeants palestiniens demandent à la communauté internationale de condamner ce comportement irresponsable, alors que sur le terrain, la colonisation connaît un bond sans précédent. Rien que pour Jérusalem-Est, la paix maintenant a constaté une augmentation de 60% des permis de construire au cours des deux premières années de la présidence Trump. L'ONG israélienne anti-occupation condamne une attaque directe contre la solution à deux États et une volonté délibérée d'ouvrir la voie à une intensification de la colonisation en vue de l'annexion des territoires occupés.
Coup de tonnerre jeudi en Israël, justement, après des mois de suspense. Benjamin Netanyahou a été inculpé pour corruption, abus de confiance et malversation dans trois affaires différentes. Jamais dans l'histoire de l'État hébreu, un premier ministre en exercice n'avait été mis en examen. C'est un coup d'État, a aussitôt réagi un Netanyahou très combatif, tandis que son rival Benny Gantz, qui venait à son tour d'échouer à former un gouvernement, l'appelait à démissionner. Un coup de théâtre bien évidemment à la une de la presse israélienne jeudi matin. Jérusalem, Michel Paul.
Le mot qui figure ce matin à la une de tous les journaux, de tous les médias, corruption, l'État d'Israël contre Benjamin Netanyahou et aussi la réaction très forte du Premier ministre israélien, c'est une tentative de coup d'État. Un commentateur s'inquiète de la tactique adoptée par Netanyahou, celle de la terre brûlée. Tout comme Néron, il va contempler le pays tout entier en proie aux flammes avant qu'il n'accepte de quitter la résidence officielle rue Balfour à Jérusalem. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, estime Israël Hayom, le journal proche du pouvoir. C'est une période pleine de dangers, ajoute l'auteur de l'article. Une journée triste, affirment plusieurs chroniqueurs, mais aussi un événement très important dans l'histoire du pays. Ce n'est que le début, titre de son côté Yedioth Ahronot, la campagne électorale vient de commencer. Dans la classe politique israélienne, de nombreuses voix dans l'opposition s'élèvent pour réclamer la démission de Netanyahou. Plusieurs articles soulignent que des défis lui sont lancés également au sein de son propre parti, le Likoud. Et Haaretz, le quotidien libéral, conclut son éditorial en proclamant « Il faut mettre un terme à la campagne de destruction du Premier ministre, et cela au plus tôt ».
Rémi Koffer, est-ce que cette mise en examen sonne, selon vous, la fin de l'ère Netanyahou ?
Alors c'est évidemment difficile à prévoir, mais il est certain qu'il a du plomb dans l'aile. Netanyahou, quand il a commencé en politique, il a commencé en surfant, si je puis dire, sur le prestige de son frère aîné. Car le frère aîné, Yonatan Netanyahou, c'est lui qui avait donné, on ne se rappelle pas, mais en 1976, il y avait un Airbus d'Air France qui avait été détourné sur l'Ouganda par des terroristes. Il y avait des Palestiniens, il y avait des Allemands. Et on s'est mis à trier les Juifs d'un côté et les passagers juifs et les autres. Vous imaginez l'ambiance en Israël. Et les autorités israéliennes ont décidé d'un raid de commando à 3500 km de chez eux. Un raid très, très, très audacieux qui a été mené par Yonatan Netanyahou, qui était le chef de la... Alors, pardonnez-moi pour la prononciation, Sarayet Metkal, qui est l'unité, la crème de la crème des forces spéciales. Benjamin Netanyahou y a servi d'ailleurs également, mais à un rang très faible. Donc il est parti avec un haut niveau de prestige. Il était le frère d'un héros national. Et c'est vrai que maintenant, ça finit mal. Bon, ça va, en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, ouvrir une très grande période d'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les répercussions de ce genre de choses? Il est certain que Mike Pompeo, qui est l'ancien patron de la CIA, remplacé par une femme maintenant, Gina Haspel, eh bien, Mike Pompeo, qui est le ministre des Affaires étrangères américain, et donc le président Trump à travers lui, avait rendu un très grand service à Netanyahou, puisque il lui apportait un nouvel élément dont il pouvait se prévaloir dans une campagne électorale, en disant « c'est grâce à mon entregent que les Américains se rangent de notre côté pour ce qui concerne le problème des colonies en territoire occupé ». Et maintenant, évidemment, cet argument portera certainement moins.
Alors, vous consacrez un chapitre de votre livre aux guerrières secrètes d'Israël. On est dans les années 70. Les attentats palestiniens et notamment la prise d'otages sanglante au JO de Munich entraînent les représailles du Mossad, les services secrets. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le parcours de Sylvia Raphaël, espionne et reporter photographe, qui a fait partie, elle aussi, de la crème du Mossad?
Oui, alors elle a fait partie de l'unité du Mossad qui s'appelle le Kidan, la baïonnette, qui est l'unité chargée des exécutions de gens que le gouvernement a décidé d'éliminer. Donc c'est vraiment une petite élite très resserrée. Et cette jeune femme qui est sud-africaine, blanche, a priori rien ne la prédestine à se prendre d'amour pour Israël, sinon un lointain cousin qui arrive, qui a été déporté et qui arrive après-guerre et qui raconte l'horreur nazie. Elle se prend d'amour pour l'État d'Israël, elle veut à tout prix aller en Israël, elle y va en effet. Et là, ben, comme c'est un État où les gens sont souvent à l'affût, et en particulier les services spéciaux sont à l'affût, elle est repérée, elle a une coloc, et cette coloc travaille pour l'unité 188, qui est l'amorce de ce Kidon. Et on la teste, on la fait tester par un officier traitant qui la rencontre pour évaluer son sang-froid, sa capacité à répondre à une situation imprévue, son courage, etc. Elle devient une agente du Kidon. Elle participe donc en particulier à Rome à l'exécution d'un des chefs de l'OLP parce que la première ministre Golda Meir a décidé, colère de Dieu, c'est-à-dire la vengeance contre les responsables de l'attentat, Septembre Noir, c'est-à-dire le cache-sexe d'El Fattah, et aussi contre le FPLP de Georges Rabash, parce que le FPLP, c'est des Japonais qui travaillaient, de l'armée rouge japonaise qui travaillait pour le FPLP, ont mitraillé les gens dans le hall de l'aéroport de Tel Aviv. Donc, il y a eu des dizaines de morts, oui. Et donc, on dit, il faut les éliminer. Et effectivement, on va les éliminer. Et Sylvia Raphaël participe à une opération pour éliminer Ahmed Boudia, qui est un des responsables du FPLP et qui de Septembre Noir, pardon, et qui est un ancien du FLN algérien, donc ils vont piéger sa voiture et le faire sauter donc à Paris, parce que c'est une espèce d'opération de représailles internationale. Et puis, le chef de Septembre Noir, c'est Ali Hassan Salamé, qui est le chef d'un ancien dirigeant des guérillas palestiniennes en 48, au moment de la guerre d'indépendance d'Israël. Et il s'agit d'éliminer Ali Hassan Salamé, seulement il le confond avec un serveur marocain, Ahmed Bouchiki, qui est un serveur marocain à Lillehammer, une petite ville de Norvège. Ils le descendent, ils le tuent, et elle fait partie de l'équipe qui a fait les repérages. Seulement, d'une part, c'est pas lui, il a rien à voir avec le Septembre Noir, et d'autre part, bah, la Norvège est un pays, comme quand on a eu la bonne idée, entre guillemets, de vouloir faire sauter le bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande, le Rainbow Warrior, 85, eh bien, là, si vous voulez, c'est un petit pays où les gens sont outrés, réagissent de manière très virulente, donc une grande partie des agents du Mossad se font prendre.
Et donc termine en prison pour quelques mois au moins, ou quelques années même?
Ah ben quelques années, elle épousera d'ailleurs son avocat norvégien.
Est-ce que le Mossad a été l'un des premiers services à donner aux femmes une place égale aux hommes, en leur confiant des missions sur le terrain?
Alors, égal, je n'irai pas jusque-là, parce que ça, à mon avis, ça serait un petit peu trop optimiste, mais c'est vrai que dans l'ensemble des services de renseignement, les femmes jouent un rôle de plus en plus important au fil du temps. Et le Mossad, à la grande indignation de beaucoup d'adversaires arabes qui trouvent que c'est pas normal, à part les gauchistes du FPLP dont je parlais tout à l'heure, la plupart des mouvements arabes qui agissent contre Israël n'accordent pas beaucoup d'importance aux femmes. Les Israéliens ont rompu avec ça, mais vous savez qu'il y a des femmes aussi dans Tzal, dans l'armée israélienne, etc. Il y a une féminisation beaucoup plus poussée et relativement précoce, puis ça se remonte presque aux origines de l'État hébreu.
Alors, on va revenir à l'actualité de la semaine avec ce témoignage embarrassant pour la Maison-Blanche, mais qui ne met pas directement en cause Donald Trump. C'est ce qui ressort de l'audition de Gordon Sondland mercredi dernier devant le Congrès. L'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne est au cœur de l'affaire qui a conduit les démocrates à lancer une procédure de destitution contre Donald Trump. RFI Washington, Anne Corpet.
Les requêtes de M. Giuliani étaient une contrepartie à une visite du président ukrainien à la Maison-Blanche, à Saint-Gordon-Sondland. L'ambassadeur l'assure, avant de recevoir son homologue ukrainien, le président demandait l'ouverture d'enquête sur l'entreprise qui employait le fils de Joe Biden et sur le scrutin de 2016. Mais Gordon-Sondland affirme n'avoir jamais entendu Donald Trump l'exiger directement. Rudolf Giuliani, son avocat qui jouait les intermédiaires.
Quand le président vous dit parler à mon avocat personnel et qu'ensuite M. Giuliani fait certaines requêtes, on suppose que cela vient du président.
Gordon Sondland dément vigoureusement la thèse d'un réseau diplomatique parallèle monté pour faire pression sur l'Ukraine.
On a tenu les dirigeants du Département d'État et du Conseil national de sécurité informés de nos activités. Et cela inclut des communications avec le secrétaire d'État Pompeo. Tout le monde était dans la boucle.
Interrogé à ce sujet, Mike Pompeo a déclaré ne pas avoir regardé l'audition. Donald Trump, lui, dément toujours vigoureusement toute forme de chantage sur l'Ukraine et a pris ses distances avec Gordon Sondland. Je ne le connais pas très bien, a déclaré le président, au sujet d'un homme qui a versé $1 million pour son investiture et qu'il a nommé ambassadeur auprès de l'Union européenne.
Rémi Koffer, Gina Haspel est la patronne de la CIA depuis mars 2018. C'est la première femme à occuper ce poste prestigieux. Comment gère-t-elle aujourd'hui ses relations avec Donald Trump, très critique envers les services secrets américains?
C'est compliqué parce que c'est le premier président des États-Unis qui, à peine arrivé, a commencé à se brouiller avec l'ensemble de la communauté américaine de renseignement, en prétendant que les informations qu'il fournissait n'étaient pas sérieuses, en les discréditant en quelque sorte, parce que, à cause de ce caillou dans la chaussure qu'il a, le premier caillou, il en a peut-être un autre maintenant, c'était l'affaire russe. Bon, vous voyez qu'il est, il y a une parité, les Russes d'un côté, les Ukrainiens de l'autre. L'affaire russe aussi, vue d'Europe, tout le monde a dit oui, mais il est coincé, il va être coincé, il va être coincé, etc. Il y a eu le procureur spécial Robert Mueller, ancien patron du FBI, qui a enquêté très sérieusement, mais qui a livré des conclusions qui ne permettaient pas de traduire Donald Trump en justice, c'est-à-dire qu'en gros ses conclusions c'était il est quand même peut-être pas blanc bleu, mais encore heureux, faut-il apporter des preuves en justice. Donc ça va être le même cas là, c'est sûr qu'il y a des témoignages qui viennent. Le problème est de savoir, d'abord nous ne savons pas exactement quel est le fond de l'affaire, et d'autre part quelle va être la solidité de l'équipe qui l'entoure. On peut raisonner par analogie en se rappelant de l'époque de Nixon, qui, lui, a démissionné parce qu'il était sous la menace d'un impeachment. En gros, ses partisans républicains, ses amis républicains, lui ont dit même à la Chambre des représentants et au Sénat, il y aura une majorité contre, c'est-à-dire que les républicains voteront contre lui aussi, enfin une partie. À un moment, dans l'équipe de Nixon, qui était très soudée, ça a quand même commencé à craquer. On attribue beaucoup les difficultés de Nixon à la presse américaine. Vous vous rappelez le film Pentagon Papers, etc., qui est de Spielberg, qui est sorti récemment. Je crois que c'est surtout la justice qui a poursuivi impitoyablement, si vous voulez, l'enquête. L'attorney général, John Mitchell, c'est-à-dire le ministre de la Justice, a été condamné dans le cadre de cette affaire à 18 mois de prison. Donc vous voyez que le problème des Américains, c'est qu'à partir du moment où ils sont indignés, après c'est un rouleau compresseur. Reste à savoir s'il y a une majorité des Américains à l'heure actuelle qui est indignée par cette affaire ukrainienne.
L'agitation populaire sans dénominateur commun continue à s'étendre en Amérique latine. Après l'Équateur, la Bolivie, le Chili, la colère gronde également en Colombie, paralysée jeudi par une grève générale et des manifestations. Manifestations d'une ampleur inédite contre le président de droite, Iván Duque, élu il y a moins de 18 mois. RFI Bogota, Marie-Ève de Teuf.
Non au libéralisme, à la réforme des retraites, aux coupes budgétaires, non à la militarisation du pays, aux assassinats politiques, à l'impunité. Les revendications des manifestants étaient pour le moins diverses. Jimena Castillo, qui est avocate à Bogota, expliquait ainsi les raisons de sa présence dans la rue.
Je suis là parce que même si je vis dans un certain confort, je ne supporte pas l'injustice, les inégalités, les mensonges et la corruption. Et tout cela caractérise le parti du centre démocratique et le président Iván Duque qui sont au pouvoir.
Le gouvernement d'Iván Duque va-t-il changer de cap? C'est peu probable, mais Juan Carlos Flores, conseiller municipal à Bogota, considère que la mobilisation est un succès, indépendamment de ses retombées.
Je crois à la nécessité de changer la Colombie. Nous sommes des millions à avoir attendu pendant des années le moment de réaliser ce changement de manière pacifique. Aujourd'hui, le jour est venu de descendre dans la rue sans peur, avec espoir et dans la joie.
Difficile de savoir si, faute de revendications précises, la mobilisation va en rester là, ou si les manifestants, forts de leur nombre, vont être tentés de redescendre rapidement dans la rue.
Partons maintenant pour Hong Kong, où après 6 mois de crise, la situation est plus tendue que jamais, notamment autour de l'université polytechnique, théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs dizaines d'étudiants contestataires étaient toujours reclus mardi soir sur le campus assiégé par la police. Le reportage de Stéphane Lagarde.
Mobilier renversé en guise de barricade, murs recouverts de tags et dans l'entrée des murs encore calcinés. Restes de l'incendie provoqué par les étudiants retranchés pour freiner la progression des policiers. Après 3 jours de siège, l'université polytechnique n'est plus qu'un champ de bataille. Dans les couloirs, les salles de vie, des petits groupes de protestataires masqués discutent, consultent leur portable, seul lien avec l'extérieur. D'autres sont plus renfermés comme sonnés. Cathy, 20 ans, étudiante en sociologie.
Nous voulions juste protéger notre école et puis la police est arrivée. Elle a encerclé le campus et nous nous sommes retrouvés coincés à l'intérieur. Nous ne pouvions plus rentrer à la maison. Moi, je suis ici depuis une semaine et je ne peux plus partir.
Peur de sortir, des professeurs et des avocats comme Hillary ont tenté de les raisonner.
Nous avons analysé avec eux la situation. À un moment ou à un autre, la police donnera l'assaut et si c'est le cas, nous ne pouvons plus rien garantir. Ils peuvent être accusés d'émeute, ce qui est un crime puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement à Hong Kong, donc ils sont très inquiets.
Une inquiétude sur les visages de ceux qui sortent emmitouflés dans des couvertures de survie. À la sortie, les policiers les conduisent vers les secours pour les examiner. Certains souffrent de blessures mineures, notamment aux jambes et d'hypothermie, confie l'eau infirmier, mais c'est surtout sur le plan psychologique qu'ils ont besoin de soins. Ils ont été confrontés à un grand stress et ceux qui restent sont probablement encore plus affaiblis à l'intérieur. Selon les autorités, près de 800 manifestants, dont 300 âgés de moins de 18 ans, se sont rendus ces dernières heures aux forces anti-émeutes qui continuent d'encercler le bâtiment.
Et l'évolution de la situation à Hong Kong est à suivre dans les journaux de RFI. Rémi Koffer, il y a dans votre livre un chapitre d'autant plus intéressant qu'on vient de célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Vous y racontez comment, dans l'ex-RDA, la Stasi, sœur cadette du KGB, a eu recours tout au long de la guerre froide à ce qu'on a appelé la technique des agents Playboy. Racontez-nous.
Ils appelaient ça des Roméo. Alors c'était l'aile, la HVA, c'est-à-dire l'aile espionnage à l'extérieur de la Stasi, à peu près un dixième de la Stasi. Et effectivement, bon, vous savez que quand vous passiez d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest, vous aviez immédiatement votre citoyenneté allemande qui était reconnue à l'Ouest, puisque bon, c'était l'Allemagne de l'Ouest n'avait jamais, l'Allemagne fédérale n'avait jamais admis la sécession, si je puis dire, de l'Allemagne de l'Est. Donc on faisait passer de temps en temps des beaux jeunes gens qui avaient été formés. Et quels étaient leurs objectifs? Ça n'était pas de séduire des femmes très importantes, c'était de séduire une des 20 000 secrétaires qu'il y avait alors à Bonn, la capitale provisoire de la République fédérale avant que ça redevienne Berlin. Il y avait 20 000 secrétaires dans les diverses administrations d'Allemagne fédérale. La technique, c'est de repérer une personne qui est un peu solitaire. Et puis, par hasard, arrive un très beau gosse. On se rencontre, etc. Cette jeune femme est épatée de rencontrer ce Roméo. En fait, le type a été programmé pour ça. Il y a 110 femmes, la commission Gauck, qui est la commission de déstasisation, si on peut dire, a établi le cas de 110 de ces femmes qui espionnaient pour le compte de l'Allemagne de l'Est, et qui espionnaient donc l'Allemagne fédérale pour le compte de l'Allemagne de l'Est. Et le pire, c'est qu'elles tombaient sous le coup de la loi, alors que généralement, les Roméo qui les avaient conduits sur le chemin de la trahison, eux ne risquaient rien et n'ont pas été condamnés, en général. sauf dans certains cas, ils n'ont pas été condamnés parce qu'on disait, bah oui, ils espionnaient pour le compte d'un État, la RDA, qui était reconnu par la communauté internationale, donc... Ben, ils ont fait de l'espionnage, mais bon, hein, et comme c'est chez nous et qu'il y a réunification, on ne va pas les punir, alors c'est les malheureuses qui étaient punies.
Une semaine d'actualité.
L'actualité en France à présent, des affrontements avec les forces de l'ordre ont marqué samedi dernier le premier anniversaire du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Le reportage Place de la Bastille à Paris, d'Abla Jounaïdi et Thibaut Baduel.
Un an après, que reste-t-il de la colère des Gilets jaunes? Raoul, retraité, était à Paris il y a un an. Il rappelle d'emblée la vocation économique et sociale qui reste au cœur du mouvement.
9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans la cinquième puissance économique au monde, c'est un problème. Quand je vois que des gens vivent avec 900 euros de retraite, c'est pas normal.
Jean-Pierre, lui, est venu de Toulouse pour assister aux manifestations du corps médical cette semaine. Il a été de tous les week-ends des Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes défendent toutes les causes. On a fait le corps médical et on s'est reposé. Aujourd'hui, on est là, demain, on est là. Et lundi, on est encore là pour les infirmes.
Mais un an de confrontation avec la police a rendu la réponse des forces de l'ordre toujours plus musclée. Léna dénonce l'annulation d'une marche initialement autorisée par la préfecture de police.
On avait un parcours Place d'Italie à 14h, Bastille. Alors c'est quoi ça?
Les rassemblements dans la capitale ont été dispersés les uns après les autres. Après la Place d'Italie, en début d'après-midi, Bastille était à son tour la cible des gaz lacrymogènes. En une poignée de minutes, la place est vidée de ses manifestants.
9 ans de prison pour la sœur aînée de Fabien et Jean-Michel Klein, les voix francophones du groupe État islamique. Le mari d'Anna Diana Klein, Mohamed Amri, un Tunisien de 58 ans, a écopé lui de 10 ans de réclusion et d'une interdiction définitive du territoire français. Le couple avait tenté de rejoindre les frères Klein en Syrie en emmenant ses 4 enfants. Anna Diana Klein, 44 ans, affirme aujourd'hui avoir été aveuglée par ses frères et par l'idéologie de l'EI. Laura Martel a suivi le procès pour RFI.
Dans son jugement, la Cour a mis en avant l'acharnement du couple, un an durant, à vouloir passer en Syrie. Un projet mené en toute connaissance de ce qui s'y passait, souligne la présidente, et que seule leur arrestation a fait échouer. « Vous avez entraîné vos enfants dans ce périple mortifère auquel vous n'avez jamais renoncé », a-t-elle insisté. Pas même après les attentats du 13 novembre 2015, revendiqués depuis la Syrie par les frères Klein. Mohamed Amri, qui soutenait que ce départ n'était qu'une visite familiale, a écopé de la peine maximale de 10 ans de prison et d'une interdiction définitive du territoire, fustigée pour son attitude de déni, voire de provocation. Notant le repentir et la possibilité d'une évolution positive chez Anne Diana Klein, le tribunal l'a condamnée à 9 ans, assortie comme pour son mari d'une période de sûreté des deux tiers. Son avocat, Maître Desrues.
Lorsque le tribunal fait le constat qu'un individu a changé, qu'il a pris la conscience de ce qui lui était reproché, qu'il a pris du recul, et on retire un an aux réquisitions, on considère que c'est trop peu. Et la peine qui a été prononcée est plus élevée que la jurisprudence habituelle de cette.
Pour vous, elle a payé le nom Klein?
Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je pense que ça a eu forcément, d'une façon ou d'une autre, une incidence. Et encore une fois, son nom de famille était plus un élément de compréhension des faits plutôt qu'un critère de culpabilité. Elle n'a pas à répondre des actes de ses frères.
Le couple va interjeter appel.
Rémi Coffer, 9 ans de prison pour Anna Diana Klein. Est-ce que c'est une peine pour l'exemple?
Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est les juges qui ont délibéré. Ce qu'on peut dire, est-ce que tout ce que j'ai pu établir dans ce bouquin « Les femmes de l'ombre », c'est que précisément, longtemps, le rôle des femmes dans les questions secrètes, de clandestinité, d'espionnage, a été sous-estimé, qu'il l'a peut-être été aussi dans les débuts du djihadisme, c'est-à-dire qu'on s'est polarisé uniquement sur les messieurs djihadistes, et peut-être moins sur les femmes djihadistes, qui semblent, pour un certain nombre d'entre elles, avoir participé consciemment à leurs activités, éventuellement à leurs actions terroristes. Donc, il y a peut-être un changement qui est en train de se dessiner. Il y a 3 jours, j'étais à Bruxelles, et effectivement, en Belgique, depuis plus de temps peut-être qu'en France, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de femmes qui avaient été sergentes recruteuses pour les réseaux djihadistes et qu'il fallait pas non plus sous-estimer cet aspect des choses. Il s'agit pas non plus de faire la chasse aux sorcières simplement parce qu'elles sont des femmes, parce qu'évidemment ce serait injuste, mais il faut réfléchir de manière froide un petit peu sur le rôle qu'elles ont pu jouer.
Une semaine d'actualité.
La semaine en Afrique a été marquée par cette nouvelle attaque dont a été victime lundi l'armée malienne dans le nord du Mali, vers la frontière du Niger. Les précisions à Bamako de Serge Daniel.
L'une des priorités ce mardi, ce sont nos blessés, explique à RFI une source militaire malienne contactée dans le nord. Certains blessés ont été évacués vers la localité nigérienne de Tiloa. D'autres vers la localité malienne de Gao après un passage par la ville de Menaka. Dans cette ville, ce mardi, des habitants aperçoivent dans le ciel des avions français de l'opération Barkhane en pleine opération. S'agit-il de ratissage dans la zone de l'accrochage? Est-il plutôt question de porter secours à des troupes alliées ou les deux? Aucune précision pour le moment. C'est au sud de Menaka, non loin de la frontière avec le Niger, que de présumés djihadistes ont attaqué les troupes maliennes. Ici, selon un communiqué officiel, 24 militaires maliens d'un côté et de l'autre 17 présumés djihadistes ont été tués. Ce bilan pourrait être bien provisoire. Côté nigérien, d'après une source sécurité, les assaillants à bord de 7 véhicules ont utilisé une ruse de Sioux en circulant également dans des tricycles appartenant à des centres de santé pour se faire passer pour des membres du personnel médical en campagne de vaccination.
Et le bilan de cette attaque s'est alourdi depuis. Au total, ce sont 43 militaires maliens qui ont été tués. Une attaque survenue alors que s'ouvrait le même jour le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Invité d'honneur de cette 6e édition, le président mauritanien Mohamed Ould Razouani, accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall. Le premier ministre français Édouard Philippe avait également fait le voyage. Charlotte Hydrac.
Hommage appuyé du président sénégalais à son homologue mauritanien. Mon cher frère, vous êtes ici chez vous, a lancé Macky Sall, qui s'est interrogé ensuite dans son discours sur l'efficacité de la réponse face au terrorisme.
Plus de 14 000 hommes de la MINUSMA, j'ai 5 Sahel, je pense à plus de 5 000, 6 000 hommes, plus Barkhane, plus l'armée malienne. C'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un terrain, qui est pris en otage par une bande d'individus qui a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire ?
Repenser la sécurité collective, c'est d'ailleurs le thème de la première plénière ce lundi. L'idée lancée lors du dernier G7 de Biarritz, c'est d'élargir le dispositif pour faire face aux menaces terroristes dans la région avec un outil baptisé P3S, partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel. Les modalités précises sont en cours d'élaboration. En tout cas, l'objectif affiché est une coopération au sens large, comme l'a rappelé Édouard Philippe.
Tous les partenaires ont vocation à s'y associer. Les États du Sahel, bien sûr, mais aussi les États côtiers, de la Côte d'Ivoire au Bénin. Même si ces États ne sont pas confrontés de manière directe à l'extension de la menace terroriste, ils détiennent une partie de la solution pour la combattre.
Il n'y aura pas de décision annoncée à l'issue de ce forum. C'est bien un rendez-vous informel pour échanger, discuter, réfléchir. Par exemple, sur le rôle des populations dans la sécurité, sur la prévention de l'extrémisme violent ou encore sur la sécurité numérique.
Et la dégradation de la sécurité au Sahel n'est pas sans conséquences sur le tourisme. Le Burkina Faso, déstabilisé par les attaques djihadistes, est désormais entièrement déconseillé aux voyageurs. La carte du pays, disponible sur le site du ministère français des Affaires étrangères, vient d'être mise à jour. Karine Franck.
Le Burkina Faso est désormais entièrement rouge et orange. En clair, c'est le pays tout entier qui est fortement déconseillé aux voyageurs par la France. Les dernières zones jaunes, au sud-ouest, au centre-ouest et au centre-sud, même la capitale, Ouagadougou, virent au orange. Elles sont désormais considérées comme des zones déconseillées, sauf pour des raisons impératives. En rouge, la frontière du Mali, du Niger, du Bénin et du Togo, les régions du Sahel, du nord et de l'est. Cette nouvelle carte d'évaluation des risques illustre la dégradation sécuritaire dans le pays. Ce phénomène s'amplifie depuis le début de l'année, estime le Quai d'Orsay sur son site internet, affectant désormais une grande partie du territoire. À Ouagadougou, une source proche du pouvoir juge discourtois cette manière de procéder. Cela contribue à instaurer dans notre pays un climat de psychose. Ouagadougou en orange, mais toutes les capitales du monde sont soumises aujourd'hui au risque terroriste, à moins que ce soit juste pour légitimer son intervention, s'exclame cette source qui conclut « C'est dommage de voir que les personnes qui travaillent avec nous contribuent à nous discréditer ».
Rémi Kofer, on a entendu tout à l'heure le président sénégalais Macky Sall expliquer qu'entre la MINUSMA, Barkhane et le G5 Sahel, 30 000 hommes sur le terrain étaient pris en otage par une bande d'individus. S'il ne s'agit que d'une bande d'individus, pourquoi les militaires, selon vous, n'arrivent-ils pas à en venir à bout ?
Alors, il ne s'agit pas forcément d'une petite bande d'individus, parce que le problème est plus vaste que ça. La contre-insurrection, ça implique des effectifs considérables, de l'ordre de 1 à 10. C'est-à-dire que pour un insurgé, il faut à peu près 10 soldats des troupes régulières pour en venir à bout. Ce que nous a démontré l'histoire à travers toute une série de guerres. Le problème, pour ce qui nous concerne, nous Français, c'est qu'on est bien seuls. Nos 4500 petits gars de l'opération Barkhane, ils font du bon boulot. Mais ils sont quasiment seuls. Qui les soutient ? Les Américains fournissent des images satellites, des drones, etc. Les Anglais sont instructeurs de tir pour certaines des armées régulières des pays concernés. Les Allemands font de transport aérien. Mais on est bien seul, c'est-à-dire qu'on est confronté à un problème. C'est l'inexistence militaire de l'Europe qui ne peut même pas défendre ce qu'elle estime être ses intérêts. Dans cette zone sahélienne, c'est-à-dire refouler en quelque sorte le risque terroriste loin de nos frontières, elle ne peut pas le faire puisque elle n'est pas unie là-dessus, elle n'a pas de puissance militaire, elle ne veut pas en avoir. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Je crains que nos gars passent des années à s'épuiser pour un résultat extrêmement maigre.
La campagne pour la présidentielle du 12 décembre en Algérie a commencé dimanche dernier, mais les 5 candidats en lice ont du mal à la mener. Il faut dire que la mobilisation continue contre la tenue du scrutin. Depuis plusieurs mois, des milliers de personnes descendent dans les rues chaque vendredi pour demander un changement total à la tête du pays. Les étudiants, eux, se donnent rendez-vous les mardis, mais cette semaine, c'est mercredi que les manifestants sont sortis dans les rues d'Alger, au 4e jour de la campagne électorale. Magali Lagrange.
Les appels ont été lancés sur les réseaux sociaux. Des manifestants sont partis d'un quartier populaire de la capitale pour converger vers la Grande Poste dans le centre d'Alger, point de ralliement du mouvement de contestation, le Irak, avec des slogans devenus habituels comme « pas de vote ». Des journalistes présents affirment que des forces de police ont été dépêchées sur place pour les disperser. Au moins 20 personnes ont été interpellées selon le Comité national pour la libération des détenus. Mais même si les contestataires continuent à faire entendre leur voix, et même si certains souhaiteraient maintenant des marches quotidiennes contre la présidentielle à 3 semaines de l'échéance, l'homme fort du pays, le général Ahmed Gaïd Salah, en appelle aux enfants fidèles du pays, selon ses termes, et à leur devoir envers la patrie. La veille, mardi, il s'était déjà réjoui de, je cite, l'élan populaire suscité par le scrutin présidentiel à venir. Les 5 candidats continuent, eux, à battre campagne et à tenir leurs meetings en présence de forces de l'ordre, des réunions régulièrement interrompues ou chahutées par des contestataires.
La rue contre le système en Algérie, Rémi Kofer, est-ce que le système va encore une fois l'emporter ?
Écoutez, je ne lis pas dans le marc de café, donc je ne peux pas vous le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie indépendante, le nouvel État algérien qui émerge en juillet 62, n'émerge pas sur des bases démocratiques très larges, puisque finalement, de cette guerre sort un vainqueur, le Front national de libération nationale, le FLN, qui a liquidé quand même un autre mouvement indépendantiste qui était le mouvement national algérien, liquidé physiquement, hein, on tue, et que le pouvoir du président Ben Bella, qui vient à peine de s'installer, sera renversé en 1965 par l'armée dite des frontières, celle qui s'était peu battue contre l'armée française et qui avait singularisé son arrivée sur le sol algérien en écrasant les derniers maquisards qui avaient survécu vécu rouleau compresseur français, ils ont été laminés par leurs frères algériens. Donc il n'y a pas eu de base démocratique très large. Il y avait des aspirations démocratiques de la population, mais c'est installé quoi ? Ce que les Algériens appelaient à un moment l'État DRS, c'est-à-dire la direction des renseignements, la sécurité militaire, une espèce de pouvoir très important.
Et très opaque.
Très opaque, bien entendu. Un régime très militaire, encore un général. Ce sont toujours des généraux avec quelques civils un peu comparses, si vous voulez. Donc, oui, ils n'ont pas une grande expérience démocratique. Il y a une pulsion, visiblement, de la population qui voudrait quelque chose de plus démocratique, mais c'est aller à rebours de 60 ans d'histoire qu'ils ne le sont pas du tout. Alors, ça peut tourner d'un côté ou de l'autre, c'est difficile à dire.
Un mot sur les services français. La DGSE s'est un peu féminisée, la DGSI davantage, mais dans les forces spéciales, toujours aucune femme.
Non, c'est pas du tout. Oui, c'est un domaine de monsieur uniquement, men only, si vous voulez, si on veut parler franglais. Mais la DGSE, par exemple, il y a un peu plus de 30% des femmes, et je vous garantis que ça n'est pas seulement pour porter le café ou taper les textes. Hein.
Pourquoi écrivez-vous que c'est sur le front littéraire, cinématographique et télévisuel que se joue aussi le combat des services secrets aujourd'hui?
Regardez le Bureau des légendes.
La série de Canal+.
Voilà, de Canal+. Oui, parce que qui vote les crédits aux services de renseignement, les assemblées, enfin en tout cas dans les pays démocratiques. Je ne surestimerai pas le niveau de compréhension des problèmes de renseignement par le député français moyen. En revanche, s'il regarde le Bureau des légendes, il va dire « ça c'est génial, ils font des coups fantastiques, etc. », il sera plus enclin que s'il va voir les films après qui ont paru après cette malheureuse aventure du Rainbow Warrior dont on parlait tout à l'heure, Jean Vanille Fraise, etc., où c'est les pieds nickelés, les charlots font du service secret, etc.
Et vous soulignez donc que la DGSE voit d'un très bon œil le Bureau des légendes, elle avait besoin de redorer son blason.
Ça ne peut pas lui faire de mal. Ça lui fait même forcément du bien, donc elle peut apprécier. Alors, bon, ils peuvent se dire à certains moments, c'est un peu trop romancé, un peu trop, etc. Mais dans l'ensemble, ça donne d'eux une très bonne image. Donc, ils seraient idiots de cracher dessus.
Mais en même temps, à part l'espionne incarnée dans la série par Sarah Giraudeau, les femmes restent quand même, elles font beaucoup d'analyses en restant à Paris.
Oui. Les femmes sur le terrain, il commence à y en avoir, mais c'est à rebours d'une longue pratique. Et par ailleurs, les postes de direction, on disait tout à l'heure Gina Espel, la patronne de la CIA, c'est donc une femme. Et seulement, vous pouvez regarder dans l'histoire des services secrets français, vous n'avez jamais eu une femme qui soit patronne des services secrets français, que ce soit avant la guerre de 14, dans l'entre-deux-guerres, après, pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à maintenant. Ça a toujours été des messieurs. Alors, de ce côté-là, on est loin d'une parité pratique. Mais j'ajouterais que la parité n'est pas demandée par les femmes de ces services sur le thème on veut 50-50, etc. Ce qu'elles demandent généralement, c'est être plus présentes sur le terrain, c'est-à-dire prendre leur part de risque plus importante. Donc, elles réagissent pas, si vous voulez, au nom d'une politique de quotas. Elles disent on est aussi capable que les hommes, et bien entendu c'est vrai, donc on veut pouvoir avoir des responsabilités supérieures, quitte à prendre des risques plus élevés.
Et vous soulignez que c'est une femme qui, depuis le mois de mai, dirige TRACFIN, la direction du renseignement de Bercy.
Oui, et puis le service central de renseignement territorial, qui est dirigé par Lucille Roland, donc par une femme. Mais enfin, on a quand même un certain nombre de services secrets, et c'est plutôt l'exception que la règle, la direction par une femme.
Rémi Coffert, dernière question. De toutes les espionnes dont vous dressez le portrait dans votre livre, quelle est celle qui vous a le plus marqué?
C'est Marie-Madeleine Fourcade. Parce que je l'ai connue personnellement. Marie-Madeleine a été chef du plus grand réseau pendant la Seconde Guerre mondiale de renseignement, dirigé par une femme dans l'Europe occupée, 2405 membres, donc une organisation, et puis des vrais, des gens qui ont eu des dossiers d'habilitation après-guerre, etc. Alors c'était un mélange. Cette femme qui avait des opinions très à droite avant-guerre, très gaulliste après-guerre, était par ailleurs, on sentait physiquement quand elle était au milieu des anciens de son réseau, c'était elle la chef, un petit bout de bonne femme, mais ils étaient tous à ses ordres. Et par ailleurs, avec des remarques très ironiques sur les hommes qui seraient plutôt de type féministe, si vous voulez. Donc c'était un mélange. Elle était à certains égards, elle non plus ne demandait pas un traitement spécial pour les femmes. Elle était volontiers donc ironique vis-à-vis des hommes, mais en même temps, vous disiez, c'est la patronne. Quand on rentrait physiquement, tout tournait autour d'elle.
Merci beaucoup Rémi Coffer d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre foisonnant, Les femmes de l'ombre, l'histoire occultée des espionnes, qui vient de paraître chez Perrin. Merci à Vanessa Rovensky qui a réalisé cette émission. Bon week-end, à bientôt.
Musique du monde, Laurent.